Les informations, Belinda Bosuma. Faites taire les armes, arrêtez l'escalade, c'est le message du secrétaire général de l'ONU face à l'offensive du M23 soutenue par le Rwanda dans l'est de la RDC. Antonio Guterres était devant la presse hier à New York, ce en marge du sommet de la CEAC et la SADC ce vendredi en Tanzanie, sommet consacré à la situation sécuritaire en RDC. Fermeture de l'agence américaine USAID à travers le monde. Cette décision de l'administration Trump marque la fin d'une ère d'assistance et le début d'une période de turbulence économique et sociale sans précédent, estiment certains observateurs. L'impact de cette fermeture est ressenti notamment en RDC. Nous en parlons dans ce journal. Et puis, le VIH-Sida est un véritable problème de santé publique dans la province de la Tchopo notamment. Les femmes enceintes et les jeunes gens sont les plus affectés. Pour en parler, nous recevons Christine Sefou, secrétaire exécutive provinciale du PNMLS dans la Tchopo. Madame, messieurs, bonjour. Nous sommes à un moment charnière et il est temps de nous rassembler pour la paix. Ce vendredi, les dirigeants de la communauté de l'Afrique de l'Est et de la communauté de développement de l'Afrique australe participent à un sommet en Tanzanie. L'accent sera mis sur la crise face à l'offensive du M23 soutenue par les forces de défense rwandaises. La semaine prochaine, à Addis Abeba, je participerai à un sommet du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine où cette crise sera également au centre des préoccupations. Avant ces réunions cruciales, je souhaite lancer un appel spécial à la paix. Ces propos sont du secrétaire général de l'ONU hier à New York au cours d'une rencontre avec la presse. Alain Irung-Mouchinch nous propose un condensé du message d'Antonio Guterres.
Des milliers de personnes ont été tuées, y compris des femmes et des enfants, et des centaines de milliers ont été forcées de quitter leur foyer dans l'est de la RDC. Nous constatons également que d'autres groupes armés, congolais ou étrangers, continuent de représenter une menace. Tout ceci a un impact humain énorme. D'innombrables rapports font état de violences des droits de l'homme, notamment de violences sexuelles et sexistes, de recrutements forcés et d'interruptions de l'aide vitale, dit le secrétaire général de l'ONU. La situation humanitaire à Goma et dans ses environs est périlleuse. Des centaines de milliers de personnes se déplacent, de nombreux sites accueillant les personnes déplacées au nord de la ville et ont été pillées, détruits ou abandonnées. Les structures de santé sont débordées. D'autres services de base comme les écoles, l'eau, l'électricité, les lignes téléphoniques et l'Internet sont très limités. Pendant ce temps, le conflit continue de faire rage dans le sud Kivu et risque d'embraser toute la région. Je tiens à rendre hommage à tous ceux qui ont perdu la vie, y compris les casques bleus de la MONUSCO et les forces régionales. Et j'exprime ma solidarité avec le peuple congolais qui se retrouve une fois de plus victime d'un cycle de violence apparemment sans fin. Alors que le sommet de Tanzanie débute et que je m'apprête à partir pour Addis Abeba, mon message est clair, faites taire les armes, arrêtez l'escalade.
Antonio Guterres appelle aussi au respect de la souveraineté et l'intégrité territoriale de la RDC, au respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Il dit, je le cite, « Il n'y a pas de solution militaire, il est temps que tous les signataires du cadre de paix, de sécurité et de coopération pour la RDC et la région honorent leurs engagements. L'heure est à la médiation, il est temps de mettre fin à cette crise, il est temps de faire la paix. » Fin de citation. Par ailleurs, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève en Suisse va se réunir ce vendredi également en session extraordinaire sur la situation de l'Est de la RDC. Cette réunion à Genève sera organisée sur une demande congolaise, souligne le site officiel des Nations Unies. Sur 47 membres, cette demande est à ce jour soutenue par 29 États membres et 21 pays observateurs. La réunion d'aujourd'hui sur la RDC sera la 37e session spéciale depuis la création du Conseil en 2006. Notez que le bilan provisoire de l'invasion du M23 appuyé par le Rwanda à Goma au nord Kivu fait état de plus de 2000 morts et des milliers de blessés selon le gouvernement congolais. La Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO, et l'Église du Christ au Congo, ECC, pendant ce temps, poursuivent leurs consultations auprès des leaders socio-politiques de la RDC dans le cadre du projet du Forum national pour un consensus national afin de sortir le pays de la crise qu'il traverse. Hier, les deux églises ont rencontré l'opposant et ancien Premier ministre Matata Ponyo, président du parti politique Leadership et Gouvernance pour le Développement, LGD et Allié. Ces derniers ont remis à la CENCO-ECC deux documents dans lesquels ils formulent des propositions pour un dialogue qui débouche sur des solutions aux problèmes des Congolais et non sur le partage du pouvoir. On écoute à ce sujet Mgr Donatien Cholet, secrétaire général de la CENCO, au micro de Grâce Amzati.
Nous sommes venus rencontrer LGD et Allié, et là vraiment nous avons admiré leur proactivité. Ils savaient déjà pourquoi on venait, ils ont travaillé et nous ont donné de précieux documents dont les titres seuls peuvent dire combien ils sont précieux. Vers un dialogue politique. Mais quel type de dialogue? Partage du gâteau et arrangement politique opportuniste ou engagement ferme pour une transformation véritable? Et là-dedans, ils ont relevé les causes principal du point de vue politique, économique, socioculturel, de la réalité que nous vivons aujourd'hui, du drame que nous vivons aujourd'hui. Ils ont proposé des réformes à court, à moyen et à long terme. Et dans le deuxième document, qui est en fait un mémorandum sur un dialogue national inclusif pour un Congo pacifique, stable et prospère, du parti politique LGD. Donc là, ils donnent des dispositions pratiques. Donc nous avons ce que nous recherchions et nous continuons à écouter les uns les autres. Je crois qu'au terme de ces échanges, quelque chose de sérieux pourra être mis en place pour le bien de la nation.
Pendant ce temps, au Nord Kivu, un grand nombre de personnes déplacées se butent à des défis pour pouvoir regagner leur terroir, souvent très éloigné de Goma, notamment ceux de Kichanga, Mweso et dans le Rutshuru. Et bien que plusieurs sites se sont vidés au lendemain de l'entrée des rebelles à Goma, notamment sur l'axe Nyiragongo, plusieurs familles sont encore dans les parages et cherchent à réunir les moyens pour atteindre leur village d'origine, affirment des sources sur place. Cependant, le vaste site de Boulengo n'a pas bougé et la population déplacée exprime beaucoup de préoccupations quant à ce. Sifa Maguru nous en parle.
Une semaine après l'ultimatum lancé par les rebelles du M23 aux déplacés de vider les camps, la plupart des ménages ne savent pas quoi faire, notamment parce qu'ils se retrouvent sans moyens de transport pour faire voyager leur famille. D'autres n'ont plus de toit depuis que leurs maisons ont été incendiées ou détruites par les effets de la guerre. À cela s'ajoutent des craintes de pouvoir accéder à l'assistance humanitaire une fois dans les zones reculées et enclavées. Ces déplacés sollicitent, selon leurs responsables, un moratoire de 3 à 6 mois pour permettre aux responsables des ménages d'organiser un retour apaisé et s'assurer des conditions de sécurité dans leur milieu. Sur l'axe Nyiragongo, la situation reste catastrophique. Plusieurs camps ont été touchés par des bombes, causant des dégâts énormes, renseignent les sources locales. Les déplacés avaient fui, laissant derrière eux des corps sans vie et tous leurs biens. À leur retour, les camps étaient complètement détruits. Les acteurs locaux déplorent cette manière d'obliger les déplacés à regagner leur village alors que les conditions de sécurité ne sont pas encore réunies.
Entre-temps, une délégation de la société civile urbaine, accompagnée du maire de la ville de Beni, a visité hier des militaires des FARDC et les Wazalendo blessés au front à l'hôpital militaire garnison de Beni. Des vivres et non-vivres ont été remis à ces militaires pour les encourager. Un acte salué par le responsable de cette structure sanitaire, Dr. Beric Kakonde, commandant de l'hôpital militaire de garnison de Beni, dans ses propos recueillis par Marc Marofimbo.
Je viens de recevoir le maire de la ville et puis les représentants de la société civile qui sont venus pour encourager nos militaires et Wazalendo blessés au front. Nous disons merci parce qu'ils m'ont dit que la population de la ville de Beni a pensé à nos vaillants militaires blessés au front. C'est comme ça qu'ils ont récolté les vivres, c'est comme ils nous ont apporté les riz, l'huile, le sel et un peu d'habits pour encourager nos vaillants militaires qui sont blessés au front. Vraiment, au nom de tous les blessés, nous disons sincèrement merci, surtout à la population de Beni qui a pensé aux militaires qui sont en train de veiller pour leur sécurité et pour leur survie. Les blessés qui sont là, c'est pour la population qu'ils sont blessés. Si la population peut toujours encourager nos militaires, nos vaillants blessés, ça sera très encourageant, ça sera une très bonne chose.
Autre nouvelle, je vous l'ai dit dans les titres, l'impact de la fermeture de l'Agence américaine pour le développement international USAID à travers le monde en général et en RDC en particulier, tel que décidé par l'administration Trump, est non négligeable. Certains observateurs estiment que cette décision marque la fin d'une ère d'assistance et le début d'une période de turbulence économique et sociale sans précédent. Notez en effet que la RDC bénéficiait d'un soutien crucial d'environ 1 milliard de dollars de l'USAID chaque année, selon des sources proches de cette agence. C'est dans le cadre d'exécution des projets dans des secteurs tels que l'éducation, l'agriculture, la santé et la gouvernance. Une aide qui créait de nombreux emplois et qui contribuait à atténuer tant soit peu les souffrances des communautés locales. Au Nord Kivu, par exemple, plusieurs projets en faveur des personnes vulnérables exécutés par des ONG internationales étaient financés par cette agence américaine. Prince Kiangi, un acteur politique, en parle au micro. De Denise Lukeso.
L'arrêt des activités de l'USAID est une nouvelle mauvaise pour le peuple congolais et d'une manière particulière pour la population de la province du Nord Kivu. Car, en effet, vous devez savoir que nombreux projets étaient financés depuis plusieurs années par les fonds du peuple américain à travers l'USAID. L'USAID contribuait au financement des processus de qualification et de validation des sites miniers dans la région. Il a soutenu des projets de retrait et d'encadrement des femmes et enfants dans les mines. L'éducation des enfants et la formation des adultes sont des secteurs également qui bénéficiaient de ces fonds. Beaucoup d'autres projets de stabilisation étaient financés par l'USAID, notamment dans les relèvements communautaires et les dialogues démocratiques. Nombreuses organisations de la société civile œuvrant dans le secteur de l'environnement ont également bénéficié de ces fonds. C'est pour ainsi dire qu'une telle décision aura certainement des répercussions négatives sur un ensemble de bénéficiaires de tous ces projets. Voilà pourquoi l'administration américaine devait se donner le temps de réfléchir deux fois et d'évaluer les impacts qu'une telle décision aurait sur un ensemble de bénéficiaires. À ce jour, nous vivons dans une situation d'interdépendance.
Dans l'actualité aussi, plusieurs ménages se retrouvent sans abri dans le territoire de Bukama, province du Olomami. C'est à la suite des fortes pluies qui se sont abattues sur la région. Certains ont reçu l'assistance du gouvernement provincial, mais les besoins sont encore immenses, d'où cet appel de l'administrateur du territoire, Kalinga Amadou, joint par Jean Gandou.
Le gouvernement provincial, par le biais de son Excellence Monsieur le Vice-gouverneur, a apporté sa contribution à cette population sinistrée de cette contrée. Bien avant cela, une autre tornade était passée sur le village Manvungwe et Katondo, groupement Upemba, Cheferi Butumba, avec comme bilan plus de 200 maisons détruites. Je demande au gouvernement central et à toute personne épris de bonne volonté de venir en aide cette population du secteur Kapamaï et de la chefferie de Butumba qui vit dans des conditions précaires avec risque d'attraper le choléra qui est déjà à nos portes. Je remercie sincèrement le gouverneur de province, Banzamulume Marmon, pour son geste louable et sollicitons son soutien ou son assistance pour la population de l'autre contrée de Butumba. Je rappelle que nous, en tant que administrateur de territoire, nous n'avons aucun moyen pour assister notre communauté.
Parlons à présent de cette triste nouvelle. Le député provincial honoraire du Haut-Katanga, Nazem Nazembe, est mort jeudi aux petites heures du matin au Liban. Homme politique, opérateur économique et dirigeant sportif, de son vivant, l'illustre disparu était très apprécié par ceux qui l'ont côtoyé. Son ancien collègue Modeste Baloy lui rend hommage. Il est au micro de Jean Gandou.
Nous venons d'apprendre avec consternation la perte de l'honorable Nazem Nazembe Odoche. L'honorable Nazem, nous l'avons connu et eu à travailler ensemble d'abord dans le gouvernement provincial de l'honorable Pantakapopo en 2018, lui comme étant ministre provincial des infrastructures, travaux publics et habitats, et moi-même comme ministre de la Santé. Par après, nous l'avons côtoyé à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga au cours de la législature 2018-2023, pendant que lui-même était à sa deuxième législature. Il fit réellement un homme d'État, un homme politique de grande facture, qui avait la maîtrise et la connaissance des réalités sociopolitiques de notre pays. Ces interventions en commission et en séance plénière étaient une grande contribution pour le développement de notre pays. Nous avons beaucoup appris de lui et la République a perdu un grand homme. Paix éternelle à son âme.
Actualité internationale. Au Nigeria, au moins 17 enfants ont été tués dans l'incendie d'une école islamique dans le nord-ouest du pays, a déclaré l'Agence nationale d'intervention d'urgence. Les autorités disent avoir ouvert une enquête sur les causes de l'incendie. Une centaine d'enfants se trouvaient dans l'école lorsque l'incendie s'est déclaré mercredi dans le district de Kaoura Namoda, dans l'état de Zamfara, indique l'Agence nationale de gestion des urgences dans un communiqué. 17 enfants grièvement blessés sont soignés dans différents hôpitaux, précise l'agence. La cause de l'incendie n'a pas été précisée dans l'immédiat. Et puis, le président américain Donald Trump continue de signer des décrets. Hier dans la soirée, il a signé un texte prévoyant des sanctions contre la Cour pénale internationale, CPI et ses membres, des actions illégitimes et fondées contre les États-Unis et leurs proches alliés Israël. Voilà ce que Donald Trump reproche à la CPI.
L'invité.
Le VIH-Sida est un véritable problème de santé publique dans la province de la Tchopo, notamment les femmes enceintes et les jeunes gens sont les plus affectés. Pour en parler, nous recevons Madame Christine Sefou, secrétaire exécutive provinciale du PNMLS dans la Tchopo. Elle est avec Jacques Moukonkolé.
Madame Christine Sefou, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous venez de prendre les rênes du programme multisectoriel de lutte contre le sida dans la province de la Tchopo. Quel état des lieux pouvez-vous brosser à propos de cette pandémie dans cette juridiction?
Merci, monsieur le journaliste. Je suis heureuse puisque j'ai trouvé que le paquet VIH est intégré dans toutes les 23 zones de santé qui constituent la province de la Tchopo. De ces 23 zones de santé, il y a 14 151 PVV qui sont mis sous ARV. De ces 14 151, au moins 65% sont des femmes. Et la prévalence du VIH chez les femmes enceintes est de 4%. Quand nous regardons parmi les 23 zones de santé, 5 ce sont des zones de santé urbaines, donc qui constituent la ville de Kisangani. Et parmi le nombre là de PVV, au moins 70% se retrouvent ici dans la ville de Kisangani et particulièrement dans la zone de Kabondo, Makiso et Tchopo et les autres. Donc c'est Kabondo qui est en tête suivi de Makiso.
Quel est alors le taux de prévalence général au niveau de la Tchopo?
D'une façon générale, c'est à 2,3%.
Et quelle est la place de la Tchopo au niveau national par rapport à ces données?
En tout cas, la Tchopo est parmi les provinces qui tirent les pays en bas, compte tenu des indicateurs. Les activités qui sont menées ici, beaucoup ne se font pas comme il faut, surtout la charge virale et consort. Et ça fait en sorte que les indicateurs du pays, donc la province, tirent les pays en bas.
Alors, par rapport aux jeunes, quelle est la situation?
Je dirais que les jeunes, en tout cas, la situation est alarmante. Pourquoi je dis ça? Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cela. La plupart des jeunes, ils ne connaissent pas les modes de transmission et les moyens de prévention au VIH. Pourquoi? C'est puisque la sensibilisation ne se fait plus.
Pourquoi elle ne se fait plus?
Depuis qu'on a arrêté le financement de la Banque mondiale, beaucoup de partenaires faisaient ces activités de sensibilisation. Ils n'ont plus les moyens pour les réaliser. Et nous regrettons surtout pour les médias, les radios et consorts. On n'en parle même pas.
Madame, comment on peut expliquer surtout cette prévalence élevée au niveau de zones de santé urbaine?
Il faut voir la population et la proximité. Vous voyez par exemple le Kabondo, c'est une porte d'entrée. Là qui reçoivent les gens qui viennent des autres provinces, qui viennent de l'Est. Et là, nous savons qu'il y a une forte prévalence. La ville aussi est cosmopolite, il reçoit tout le monde. Des gens qui viennent de partout, ils sont là. Et il y a beaucoup d'activités qui font en sorte qu'ils puissent exposer cette population-là à l'épidémie du VIH-Sida.
Les activités minières peuvent aussi y être pour quelque chose.
Bien sûr, vous voyez, quand quelqu'un a l'argent, ça facilite les choses. Alors, on peut se contenter de faire n'importe quoi qui peut vous exposer au VIH-Sida. Il y a aussi le chômage. Le chômage qui entraîne les jeunes à pratiquer donc des activités qui peuvent les exposer. Les jeunes filles sont appelées à faire la prostitution pour avoir un peu de moyens.
Est-ce que les médicaments sont disponibles pour la prise en charge des personnes affectées?
Bon, en ce qui concerne les médicaments et les intrants, en tout cas là, la situation n'est pas bonne. Puisque les réactifs des laboratoires, il n'y en a pas. Et les ARV sont presque à pré-rupture. Il n'y en a pas suffisamment. Les médicaments pour traiter les infections sexuellement transmissibles, il n'y en a pas. Si on attrape un malade avec une infection transmissible autre que le VIH, on lui donne une prescription.
Par rapport à la prévention, qu'en est-il des préservatifs?
Les préservatifs, il y a petite quantité insuffisante et ça, ce n'est pas bon pour toute une grande province comme celle-ci.
Comment étiez-vous approvisionné avant?
Bien sûr, il y a le Fonds mondial qui était en train d'approvisionner les programmes. Pour le moment, ils sont en gel. Donc, ils ne donnent plus les préservatifs. Et les activités sont presque vraiment arrêtées. À l'étargie, là, alors, nous n'avons pas une autre partenaire qui peut nous appuyer dans ces intrants.
Madame, vous déplorez le manque de moyens pour mener vos activités. Comment alors pouvez-vous renverser la tendance?
Qu'est-ce que nous comptons seulement sur notre gouvernement, puisque le gouvernement doit veiller à la santé de sa population.
Madame Christian, merci.
C'est à moi de vous remercier.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.